Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est difficile de savoir ce qu'on est.
À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Tu me parles le cœur, hein? Oh, alors César. À César, tu me parles le cœur.
Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Et des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, alors que tous les regards sont plus que jamais tournés vers elle, je vous raconte un monument achevé il y a tout juste 135 ans, devenu le symbole de Paris et même de la France. Un monument imaginé pour l'exposition universelle de 1889 qui aurait pu ne pas s'installer dans le temps ou la véritable histoire de la Tour Eiffel. Dans quel contexte la construction de la Tour Eiffel a-t-elle été décidée? Pourquoi est-elle synonyme de progrès et de modernité? Comment les Parisiens du 19e siècle percevaient-ils cette tour alors la plus haute jamais édifiée? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir un réalisateur et scénariste qui est aussi le vice-président de l'Association des descendants de Gustave Eiffel. Bonjour, Savin Yetmano-Eiffel.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel, le constructeur de la tour la plus célèbre de France. En quelques mots, quel esprit animait votre aïeul ?
Je crois que Gustave Eiffel est bien représentatif de cette génération de scientifiques, d'ingénieurs du 19e siècle qui croient profondément au progrès. Tout est en train de changer, il y a plein d'inventions qui changent complètement la société et on croit que tout est possible.
Mmh. Alors on va continuer à parler de l'histoire de la Tour Eiffel ensemble, Savin Yetmano-Eiffel, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 31 mars 1889, il y a 135 ans presque jour pour jour. Voilà maintenant 2 ans, 2 mois et 5 jours que les habitants du 7e arrondissement de Paris supportent des bruits de chantiers infernaux. 2 ans, 2 mois, 5 jours qu'ils contemplent, bien malgré eux, la construction poutrelle après poutrelle de la fameuse tour de 300 mètres qui déchaîne les passions. Alors, ce jour-là, ils sont aux premières loges et ce n'est que justice. D'après ce qu'on dit, l'ingénieur Gustave Eiffel, responsable de ce désastre pour les uns, de cette merveille pour les autres, va hisser le drapeau tricolore tout en haut. Alors, on se tord le cou pour être le premier à voir ça. Vers midi, c'est au pied de la pile, l'une des 4 jambes de la tour qui fait face au pont d'Iéna qu'on s'agite. On distingue de nombreux hauts de forme parmi les habituels ouvriers. Il y a là des conseillers municipaux, des représentants du ministère, des députés et de nombreux journalistes. Tous entreprennent de gravir les étages de la fameuse tour de 300 mètres qui doit être le joyau de la toute prochaine exposition universelle. C'est aujourd'hui que le gros des travaux s'achève, mais la réunion de chantier qu'avait imaginé Eiffel se transforme en cérémonie d'inauguration. La montée est très lente, ponctuée d'explications fournies par Gustave Eiffel. La deuxième plateforme est le terminus pour presque tous les invités. Ils ne sont qu'une douzaine à monter jusqu'à la troisième. Parmi eux, il y a Claire, la fille aînée d'Eiffel, et son mari, l'ingénieur Adolphe Salle, qui participent à la Tour Eiffel en tant que responsable de la construction des ascenseurs, un poste clé. Après 1792 marches depuis le plancher des vaches, les voilà sur la terrasse qui couronne la tour. La vue est absolument superbe. Le Mont Valérien, Montmartre, Sannois semblent de petites taches grises, la forêt de Saint-Germain s'estompe dans les nuages, la Seine est un ruisseau sillonné par des barques miniatures et Paris ressemble à un jeu pour enfants. Aucun bruit ne vient troubler la quiétude des heureux visiteurs, si ce n'est celui du vent qui siffle à leurs oreilles. Qui souffle un peu fort d'ailleurs, non ? On dirait qu'elle oscille cette tour, se disent les moins amarinés en essayant de ne pas trop regarder en bas. À 14h40 enfin, Gustave Eiffel, visiblement ému, tire la corde servant à hisser le drapeau. Il est d'une envergure démesurée, comme la tour qui lui sert de hampe, 7,50 m de long sur 4,50 m de large. C'est le drapeau le plus haut du monde et il est français, s'il vous plaît. Aussitôt, une salve de 21 coups de canon est tirée sous les acclamations de la foule massée au pied de la tour. Le succès est total pour l'entreprise Eiffel. Pourtant, comme le rappelle dans son discours Pierre Tirard, président du Conseil, nombreux sont ceux qui n'ont d'abord pas cru en cette tour gigantesque. Aujourd'hui, Tirard fait amende honorable et reconnaît son erreur de bon cœur. Mais quel combat mené à la fin du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est celui de la machine à vapeur. La mécanisation s'est développée et les usines ont remplacé les manufactures. Les progrès de la métallurgie permettent à présent de construire des machines plus performantes et les innovations se multiplient. La fonte, le fer, l'acier remplacent la pierre. L'ingénieur devient l'homme indispensable et dans ingénieur, il y a génie. Le fer est encore timide dans l'architecture. On le montre dans les ponts ou les serres qui sont des édifices purement utilitaires. Les théâtres et les bibliothèques hautement inflammables sont les premiers bâtiments publics à être dotés de charpentes métalliques. À Paris, le fer s'expose pour la première fois au cœur d'édifices de prestige. L'inauguration, place du Panthéon de la bibliothèque Sainte-Geneviève, le 4 février 1851, fait la gloire de son architecte, Henri Labrouste. C'est un fervent défenseur du métal dans l'architecture. Sa charpente métallique ouvragée et ses têtes de boulons apparentes marquent le début de l'âge d'or du fer en France. 1851, c'est aussi l'année où Londres organise et invente la toute première exposition universelle. Auparavant, la Grande-Bretagne et la France organisaient des expositions nationales pour promouvoir et vendre leur propre production industrielle. Mais en 1851, l'Angleterre crâne et éblouit le monde avec son Crystal Palace, somptueux bâtiment de verre et de fer, bien sûr. C'est en 1876 que les États-Unis organisent, quant à eux, leur première exposition universelle. Elle se tient à Philadelphie à l'occasion du centenaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, signée dans cette même ville le 4 juillet 1776. La jeune nation a annoncé une tour de plus de 1000 pieds, soit un peu plus de 300 mètres, capable de rivaliser avec la tour de Babel. Les ingénieurs américains Clark et Reeves ont imaginé un pylône de 9 mètres de diamètre au sommet et 1000 pieds de haut, mais n'ont pas trouvé suffisamment de financement. Mais l'idée d'une tour gigantesque est lancée. 12 ans plus tard, en 1889, c'est à nouveau la France qui organise l'exposition universelle pour la 4e fois. Si le Palais de l'Industrie de 1855 valait bien le Crystal Palace de 1851, il va falloir faire encore mieux. Car cette année, on célèbre le centenaire de la Révolution française. Il faut rappeler à tous que la France, patrie des droits de l'homme et de la liberté, éclaire le monde de son génie et de ses valeurs. Il faut voir grand. Pourquoi pas un géant de fer ? Ou une géante ? Dès que l'ingénieur Gustave Eiffel entend parler d'une exposition universelle à Paris pour 1889, il invite son bureau d'études à plancher sur un monument métallique capable d'impressionner le monde entier. Le cabinet Eiffel connaît bien le métal. En 1857 déjà, le jeune ingénieur Gustave Eiffel, qui a alors 25 ans, dirige la construction du pont de Bordeaux, un ouvrage métallique long de 503 mètres dont les piles reposent dans des caissons à air comprimé. Quelques ponts plus tard, Eiffel fonde sa propre société et s'entoure de brillants collaborateurs. Des ponts, des hangars, des gares et même la structure de la Statue de la Liberté, tout est bon à prendre pour la société Eiffel et surtout, tout lui réussit. Entre 1880 et 1884, elle construit le viaduc de Garaby, un pont tout en fer qui enjambe la Truyère et relie Paris à Béziers en chemin de fer. Avec ses 564 mètres de long et 122 mètres de haut, c'est le viaduc le plus haut du monde, un défi d'ingénierie. Et les défis, Eiffel en veut d'autres. Dès juin 1884, Maurice Koechlin, un génial cerveau bouillonnant d'idées, dessine une première tour. 4 pieds espacés de 100 mètres qui se rejoignent pour former une sorte de chandelier. Émile Nouguier, son chef de bureau, est emballé par le projet. Bon, Eiffel, pas du tout. Mais dans l'équipe, personne n'a quelque chose d'autre à présenter. Alors, va pour ce chandelier de 300 mètres, mais à condition de l'habiller un peu pour le rendre présentable. C'est l'architecte Stéphane Sauvestre qui se charge de l'habillage. Un peu de dentelle par-ci, un campanile par-là, quelques festons pour embellir le premier étage. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Ajoutons un dégradé de bronze allant du rougeoyant au doré, et voilà, c'est parfait. Le projet, baptisé Galia, est breveté le 18 septembre 1884 par messieurs Nouguier et Koechlin, ingénieurs de la maison Eiffel, monsieur Sauvestre, architecte, et monsieur Eiffel lui-même, ingénieur et constructeur. Puis Eiffel rachète les parts de Nouguier et Koechlin contre 1% chacun du montant des travaux de la tour, si elle voit le jour, bien sûr. Pour ça, Eiffel met en œuvre une grande campagne publicitaire. Dans le Figaro, daté du 22 octobre 1884, on peut lire que M. Eiffel, constructeur bien connu, a imaginé une tour pour l'exposition universelle de 1889. Placée dans l'enceinte de l'exposition, elle serait deux fois plus élevée que les plus hauts monuments du monde. Un appareil élévatoire d'une sécurité absolue transporterait le public en quelques instants jusqu'à la plateforme supérieure, de laquelle on découvrirait un panorama de plus de 120 km d'étendue. Les lecteurs du Figaro se demandent si tout cela est humainement possible. L'ingénieur Eiffel n'est pas le seul à imaginer un projet de tour pour la future exposition universelle. Un autre projet est signé Jules Bourdet. C'est un concurrent de taille, puisque cet architecte très respecté est à l'apogée de sa gloire. C'est lui qui a fait construire le palais du Trocadéro, le clou de l'exposition universelle de 1878. Bourdet imagine une tour monumentale de 370 mètres et toque en granit et porphyre, surplombée d'un phare, la colonne Soleil. C'est le duel de la pierre contre le fer, de l'architecte contre l'ingénieur. Le 2 mai 1886 paraît au journal officiel le règlement d'un concours pour édifier une tour en fer sur le Champ de Mars en vue de l'exposition de 1889. D'une base de 125 mètres de côté, elle devra s'élever à 300 mètres de haut et ça tombe bien, M. Eiffel en a une dans ses tiroirs, pile poil les dimensions demandées. 107 dossiers sont déposés. Si Bourdet a beaucoup de soutien, Eiffel, lui, va en trouver un, mais ce sera le bon. Et au final, c'est M. Eiffel qui gagne. Les critiques ne tardent pas. Beaucoup s'en prennent à l'aspect esthétique. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Nous y reviendrons. Mais d'autres affirment que la construction elle-même est impossible, que jamais on ne pourra lui donner une résistance capable de s'opposer à la violence du vent. Et comment trouver des ouvriers pour travailler à une telle hauteur? Voilà des défis comme Gustave Eiffel les aime. Le chantier débute le 26 janvier 1887. Il commence bien sûr par les fondations. Les piles reposent sur des fondations en béton installées à quelques mètres sous le niveau du sol, sur une couche de gravier compact. Chaque matin, des centaines d'ouvriers se présentent en quête de travail. Bientôt, 235 terrassiers et puisatiers travaillent à la pelle et à la pioche. Tant et si bien qu'au bout d'une semaine, le parc est déjà méconnaissable. Les pelouses et les plantations ont disparu. Une large tranchée est creusée en lieu et place de la terrasse. Une autre s'ouvre en plein milieu du parc pour aménager un égout. Les travaux ont à peine commencé qu'en février 1887, peintres, sculpteurs, architectes et écrivains les plus connus du moment adressent une lettre de protestation à M. Alphand, le directeur des travaux. Parmi eux, le romancier Alexandre Dumas-Fils, l'écrivain Guy de Maupassant, les poètes Le Comte de Lille et François Coppé. Ils se disent amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris et ils protestent, je les cite, « au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. » Va-t-on laisser un constructeur de machines en les dire et même déshonorer Paris? La tour vertigineusement ridicule va humilier de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe. Pendant 20 ans, cette odieuse colonne de tôle boulonnée sera comme une tache d'ombre sur nos glorieux monuments. Pourquoi 20 ans? Parce que Gustave Eiffel, Édouard Locroy, ministre du Commerce, et Eugène Poubelle, préfet de la Seine, ont signé une convention le 8 janvier 1887. Elle stipule que Eiffel finance la construction et qu'il pourra exploiter la tour pendant 20 ans, à compter du 31 décembre 1889. La propriété en reviendra ensuite à la ville de Paris, soit le 1er janvier 1910. Ces messieurs amateurs d'art et de bon goût peuvent donc espérer que la ville se débarrassera de cette verrue dès qu'elle en sera propriétaire. 20 ans, ce n'est pas si long, se rassure-t-il. Mais vous vous doutez bien que les choses ne vont pas se passer comme ça. Au nombre des détracteurs, comptons aussi les riverains qui déposent plainte sur plainte. On leur cache la vue. On veut leur mort. Car cette tour, elle va s'effondrer, c'est certain, s'effondrer sur leurs immeubles. On ne peut pas les blâmer, ces habitants. Ils sont inquiets de voir se construire sous leurs fenêtres une tour qui doit atteindre une hauteur inconnue jusque-là. Gustave Eiffel rassure, se démène et promet de dédommager personnellement les riverains en cas de malheur qui n'arrivera pas, rassurez-vous, messieurs, mesdames. Et il a raison, bien sûr, car son concepteur, Koechlin, l'a conçu pour résister à une pression de 300 kilos par mètre cube, c'est-à-dire les vents les plus forts jamais enregistrés à Paris, multipliés par deux. Oui, mais alors en cas d'orage? Eh bien, en cas d'orage, la tour fera office de paratonnerre géant, car sa masse métallique sera en communication parfaite avec la couche aquifère du sous-sol, grâce à de bons conducteurs. Les fondations s'achèvent 4 mois plus tard. Pour les deux piliers côté Seine, il a fallu percer jusqu'à 14 mètres sous terre et avoir recours à 4 caissons métalliques à air comprimé, une spécialité de la société Eiffel. Nous sommes le 1er juillet 1887 et on passe au montage des 4 piles. La fabrication des piles a commencé dans les ateliers Eiffel de Levallois-Perret. Pendant 2 ans, 40 calculateurs et dessinateurs travaillent d'arrache-pied. Chacune des 18 000 pièces de la tour est tracée au dixième de millimètre sur l'un des 12 000 plans dessinés. Elles sont percées de 7 millions de trous, puis préassemblées en atelier par éléments de 5 mètres environ, qui prennent ensuite la route du Champ de Mars. Sur le site, une seconde phase d'assemblage a lieu avant le rivetage sur l'édifice lui-même. Imaginez, il faut 4 hommes pour poser un rivet. Un pour chauffer la pièce jusqu'à incandescence, un autre pour le tenir en place dans le trou qui lui revient, un troisième pour former la tête du rivet et un dernier pour l'écraser d'un coup de masse. En refroidissant, le rivet se contracte et assure le serrage des pièces entre elles. Sachant que la tour compte 2 500 000 rivets, vous imaginez le temps qu'il va falloir pour la construire et le nombre d'ouvriers ? Il y a en permanence sur le chantier 20 équipes de rifteurs. Ça semble laborieux, mais c'est une technique éprouvée et efficace qui a fait ses preuves. Les habitants du quartier ne décolèrent pas. Il faut dire que chaque jour, ils ont droit à un tintamarre de coups de marteau et de massue sur la ferraille et des centaines d'ouvriers qui se hêlent d'une pile à l'autre. Les odeurs de fumée et de goudron empuantissent le Champ de Mars dès le petit matin. Malgré les protestations, la tour monte dans le ciel de Paris à l'aide de 12 petits échafaudages en bois de 30 mètres, puis de 4 grands de 45 mètres. On utilise aussi de petites grues à vapeur fixées sur la tour elle-même. Elles peuvent tracter jusqu'à 4000 tonnes. Elles grimpent en même temps que la tour en utilisant les glissières prévues pour les ascenseurs. C'est un peu angoissant de voir ces 4 piles qui montent indépendamment les unes des autres, légèrement incurvées. 300 mètres, c'est haut tout de même, se disent les passants, en se tordant le cou pour imaginer jusqu'où va s'élever cette tour de fer. Et puis, il y a les professionnels de la profession qui affirment doctement qu'il est impossible de dépasser les 221 mètres. Au-dessus, elle s'écroulerait, affirme un professeur de mécanique. S'il le dit tout de même, ça doit être un peu vrai. Pourtant, en février 1888, à 1 an après le début des travaux, le premier étage est assemblé. Le 4 juillet 1888, Eiffel y reçoit une centaine de représentants de la presse parisienne. Tous sont montés grâce à des échelles en bois. On les restaure, on leur fait admirer le magnifique panorama, et le lendemain, bien sûr, il n'est question que de la tour dans les journaux. Eiffel est aussi un génie de la communication. Quelques jours plus tard, le 14 juillet 1888, le feu d'artifice est tiré depuis la 2e plateforme encore en construction. Pendant 30 minutes, Parisiens et Parisiennes ont sous les yeux un spectacle inouï, du jamais vu. Une cascade de feu tombe de la plateforme du 2e étage et ruisselle à travers les poutres. La tour étincelle comme si elle sortait d'une fournaise. Le bouquet final est accueilli par des ovations qui semblent ne jamais devoir finir. Le chantier va donc bon train malgré 2 mouvements de grève. Les ouvriers qui travaillent 12 heures en été et 9 en hiver réclament des augmentations. Ils estiment avoir droit à une prime de risque en fonction de l'altitude. Ce qui, en soi, est totalement faux. Qu'on tombe de 50 mètres ou de 200, Le résultat est hélas le même. Eiffel consente à une augmentation en septembre 1888. Mais quand les ouvriers reviennent à la charge, quelques mois plus tard, il reste inflexible. Et le sera jusqu'au bout. Le bout, il le voit enfin. 2 ans, 2 mois, 5 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour construire cette prouesse d'ingénierie qu'est la tour Eiffel. L'inauguration a donc lieu le 31 mars 1889, il y a 135 ans, presque jour pour jour. Il s'agit d'une fête de fin de chantier à laquelle sont conviés les ouvriers du Champ de Mars et ceux de Levallois. Je vous le disais en ouverture de mon récit, Eiffel hisse depuis le 3e étage le drapeau tricolore et contemple sa réussite. Ses premiers visiteurs autorisés à gravir les étages à pied sont éreintés, mais surtout privilégiés, car personne d'autre n'a encore le droit de l'arpenter. Et bien que l'exposition universelle ouvre ses portes le 6 mai 1889, la tour reste, elle, désespérément fermée. Les ouvriers ont beau travailler 13 heures par jour, aucun des ascenseurs hydrauliques n'est encore en état de marche. Tandis que le président Sadi Carnot visite la galerie des machines et que dans les rues pavoisées retentit la Marseillaise, dans la tour, on serre encore des rivets. C'est la seule ombre au tableau de cette exposition, mais elle est de taille. La seule ombre qui en cache une autre, puisqu'un drame va se produire sur la tour elle-même. Chaque jour, les visiteurs de l'exposition universelle trépignent au pied de la tour et se disent prêts à effectuer l'ascension à pied. C'est ce qu'ils font à partir du 15 mai 1889 à 11h. Quand enfin la tour ouvre ses portes au public, c'est déjà un succès. Mais moins de 10 jours plus tard, Angelo Scagliotti, un ouvrier de 40 ans, marié et père de 3 enfants, tombe de la tour et meurt. Eiffel parvient à plus ou moins étouffer l'affaire qui ne fait qu'un entrefilet dans quelques journaux qui raconte qu'un ouvrier aurait fait le funambule sur une poutre après les heures de travail. Le détail, bien sûr, est important. Assistant aux manœuvres de pose et réglage du tout premier ascenseur, il s'est surtout vraisemblablement trop approché et, commettant une imprudence, son crâne est écrasé lors du passage de la cabine. Et l'on sait que l'ingénieur a versé 4000 francs à la veuve pour qu'elle ne porte pas plainte et retourne en Italie. Fin du funeste épisode. 3 jours après, le 27 mai, les ascenseurs, justement, ceux des piles Est et Ouest en tout cas, entrent en service. Ils peuvent contenir jusqu'à 100 personnes et mettent à peine plus d'une minute pour atteindre le premier étage. C'est rapide, pour l'époque en tout cas. Les ascenseurs des piles Sud et Nord sont de fabrication américaine. À partir des 4 et 22 juin, ils conduisent 50 personnes au 2e étage en 1 minute. Un 3e ascenseur conduit jusqu'au 3e étage en 5 minutes à partir du 13 juin. Mais que vous y accédiez par ascenseur ou à la seule force de vos jambes, il vous en coûtera 5 francs dans les deux cas, une coquette somme qui n'arrête pas les visiteurs puisque le 10 juin, lundi de Pentecôte, la tour enregistre 23 000 entrées payantes pour cette seule journée. Dans les étages, le visiteur peut admirer un panorama à 360 degrés grâce à de puissants appareils d'optique mis à disposition contre une petite pièce. Il paraît qu'on peut voir la cathédrale de Chartres. Il peut aussi assouvir son envie de boire ou de manger. 4 majestueux pavillons de bois réalisés par Stéphane Sauvestre occupent la plateforme du premier étage. On y trouve un bar flamand qui sert de la cuisine alsacienne avec des serveuses en costume régional, un bar américain et 2 restaurants, dont un servant des spécialités russes. L'autre est tenu par un grand chef et offre des cabinets privés avec vue sur le Champ de Mars et la galerie des machines. Les plus déterminés trouveront au 2e étage une boulangerie, des boutiques éphémères ainsi qu'une imprimerie permettant le tirage quotidien du Figaro, celui-là même dans lequel Eiffel avait révélé son projet de tour. Chaque jour, à 18h, un coup de canon à blanc est tiré depuis le 3e étage. Le public est aux anges, mais Eiffel sait que ça ne suffira pas pour garder sa tour au-delà des 20 ans prévus. Alors, il encourage et finance de nombreuses expériences scientifiques. La tour sert à l'observation météorologique, à l'étude de la chute des corps et à l'aérodynamique. En 1903, la démolition est sérieusement étudiée alors que la mairie de Paris désire réaménager le Champ de Mars. Cette même année, le capitaine Gustave Ferrier installe au sommet de la tour, grâce au soutien d'Eiffel, un réseau militaire de télégraphie sans fil une technique de communication alors en plein essor. Pendant la Grande Guerre, l'intérêt stratégique de la station de la Tour Eiffel devient évidente et lui sauve la tête. Il ne sera plus jamais question de la détruire. Depuis 1964, la Tour Eiffel est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. La suite, on la connaît et on la vit encore aujourd'hui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Savin Yetman Eiffel, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La Tour Eiffel, dame de fer de plus de 300 mètres, a été construite en un temps record, 2 ans, 2 mois et 5 jours, et achevée il y a 135 ans, le 31 mars 1889. C'est avant tout la détermination de Gustave Eiffel qui a rendu possible cette prouesse technique, n'est-ce pas ? Mais aussi de ceux qui l'ont aidé et qui l'ont accompagné dans cette folle aventure, non ?
Tout à fait. Donc, Gustave Eiffel s'est très bien entouré. Si ce n'est pas lui qui a eu l'idée de départ de la tour, c'est lui qui va convaincre les pouvoirs publics, qui va la financer majoritairement et qui va aussi diriger les travaux personnellement. Puis il y a tout autour de lui, donc c'est une très bonne équipe. On a parlé de Maurice Coquelin tout à l'heure. Il y a sa famille aussi, il y a Adolphe Salle qui est à ses côtés, il y a sa fille Claire. Donc il y a toute une équipe qui le suit depuis plusieurs années sur ses grands projets. En fait, la Tour Eiffel est la quintessence de tout ce qu'il a pu créer avec ses équipes au cours des années précédentes.
Savin Yetman Eiffel, vous avez raconté le contexte dans lequel la Tour Eiffel a été construite dans votre film Eiffel, la guerre des tours, diffusé en 2023 sur Arte. On y apprend que le rêve de construire une tour de 1000 pieds, 300 mètres, animait les hommes depuis très longtemps, en fait.
Alors, le rêve de s'approcher du ciel, d'approcher les dieux, remonte à très très loin, en effet. Donc, il y a les pyramides de Khéops, déjà, en moins 2500. Après, il y a les grandes cathédrales du Moyen-Âge. Mais au 19e, tout change, puisque les ingénieurs, maintenant, ont des moyens techniques pour vraiment pouvoir aller plus haut. Parce qu'avec la pierre, on atteint une limite au-dessus de 150 mètres. Ça ne marche plus très bien. Dès 1832, l'année, d'ailleurs, de naissance de Gustave Eiffel, un ingénieur anglais, Richard Trevithick, va lancer le premier l'idée de faire une tour de 1000 pieds. C'est pour ça que cette idée va circuler de pays en pays, qu'on va se relancer le défi. Et c'est finalement les Français qui vont vraiment arriver à concrétiser ce grand projet en 1889.
La construction de la Tour Eiffel est décidée dans le cadre de l'organisation de l'exposition universelle de 1889 à Paris. Quels sont les enjeux de cet événement pour la France ?
Ils sont très importants parce que la France, encore une jeune république, c'est la Troisième République, n'est pas très en forme. Au niveau intérieur, il y a le boulangisme qui cause beaucoup de tumultes. À l'extérieur, on est entouré par des alliances de monarchies qui sont hostiles, hein, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie. Et donc, il faut montrer au monde que cette jeune république, elle est forte, elle peut en mettre plein la vue. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une belle exposition, qu'on va chercher un clou qui va vraiment impressionner tout le monde.
C'est dans ce contexte que débute la guerre des tours, le combat entre l'ingénieur Gustave Eiffel et l'architecte Jules Bourdet qui portent des projets totalement opposés. Hein. C'est la Tour Eiffel contre la colonne Soleil, le fer contre la pierre. En somme, c'est un peu le progrès contre la tradition.
Tout à fait. En fait, on est dans une période de transition énorme à la fin du 19e. Et il faut penser qu'on est encore dans un monde qui est quand même dominé par un certain classicisme. C'est l'art académique qui est le plus important, le plus reconnu à l'époque. Et si on prend un grand monument qui a été construit, inauguré en 1875, l'Opéra Garnier, on est vraiment dans deux mondes complètement différents. C'est un super monument, mais c'est tourné vers le passé. Alors que vraiment, la Tour Eiffel casse les codes complètement de l'architecture avec cette construction incroyable dont les formes sont dictées non pas par un style architectural mais par des formules mathématiques de résistance au vent.
Mais je le disais dans mon récit, Bourdet avait beaucoup de soutien, mais Eiffel, on n'en avait qu'un seul véritablement, mais c'était le bon, n'est-ce pas ?
Tout à fait. En fait, Bourdet était soutenu par le président du conseil, par beaucoup d'artistes, d'autres architectes. Et Gustave Eiffel va jouer son va-tout avec Locroy, donc qui est le nouveau ministre de l'économie qui entre en poste en 86. Il va réussir à le convaincre que sa tour est la seule capable d'être construite en temps et en heure. Et il y a un contre-exemple quand même qui joue en sa faveur, c'est l'obélix de Washington, qui vient d'être inauguré, qui est le plus haut monument au monde, qui fait 169 mètres, mais qui était censé en faire 180, et qui, dans la construction, s'est étalé sur des années et des années. Donc Gustave Eiffel lui dit, voilà, la pierre, ça ne sera jamais prêt à temps, et moi, j'ai mes équipes, j'ai mon savoir-faire, la tour ne sera pas en temps et en heure.
Et que va devenir Bourdet et, Et sa tour soleil?
Alors, Bourdet va être un petit peu triste, sortir un peu floué. Il va relancer ce projet à plusieurs reprises, essayer de la construire ailleurs, sans succès. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'à la fin, il voit cette tour s'élever juste en face de son palais. Et dans les années 30, le palais de Tokyo est finalement détruit, hein, qui est remplacé maintenant par le palais de Chaillot. Donc voilà, c'est une sorte de rivalité. Finalement, c'est Gustave Eiffel qui est sorti vainqueur de ce duel.
La construction de la tour Eiffel s'achève donc en 1889, elle restera durant 40 ans la plus haute tour du monde. Quelle renommée Gustave Eiffel acquiert-il à ce moment-là? De quoi cet ingénieur devient-il le symbole?
C'est énorme, énorme. C'est un événement, c'est comme un peu on a marché sur la Lune. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a doublé la hauteur des plus hauts monuments jamais construits. C'est un événement énorme et dans le monde entier, on en parle. Et donc Gustave Eiffel se met à symboliser vraiment le progrès, cette possibilité de changer le monde grâce à la science, grâce à la technique.
Les détracteurs de la tour Eiffel étaient, je le disais, assez nombreux. Une fois que la tour Eiffel, que la Dame de Fer est installée, quelle est leur réaction?
Alors, il y a deux réactions. Il y a ceux qui retournent un peu leur veste, qui réalisent qu'ils ont fait une erreur. Je pense notamment à Gounod qui va dîner avec Gustave Eiffel à la tour en septembre 1889 avec aussi Thomas Edison qui va interpréter une petite composition de son cru pour se faire pardonner. Et puis il y en a qui vont jamais pardonner à Gustave Eiffel cette construction parce qu'elle va à l'encontre de tout ce en quoi il croit. Et donc vous avez parlé tout à l'heure de 1903 où il y a vraiment une tentative de détruire la tour. Mais aussi Charles Garnier qui est un adversaire farouche de la tour, va tenter En 1894, il est en charge du concours pour les nouveaux projets d'aménagement de la future exposition 1900. Et ils vont donner précisément dans le règlement la possibilité aux participants de faire ce qu'ils veulent de la tour Eiffel, y compris de la détruire. Donc c'est vraiment une charge directe contre la tour.
Samuel Yatman Eiffel, revenons dans le présent, si vous le voulez bien, puisque l'histoire de la tour Eiffel continue de s'écrire. Vous êtes, on le disait, vice-président de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Quelles sont les missions de votre association?
Alors, défendre la mémoire de Gustave Eiffel, la promouvoir, hein, c'est pour ça que l'année dernière, on a fait beaucoup d'événements autour de son nom, c'était le centenaire de la mort de Gustave Eiffel, et puis aussi protéger les monuments Eiffel, puisque malheureusement, avec le temps, petit à petit, la fermeture de cette ligne de chemin de fer notamment, il y a des ouvrages Eiffel qui sont en danger, on essaye de les sauver autant que possible, et c'est ce qu'on a fait notamment à Bordeaux, le pont de Bordeaux, vous en parliez tout à l'heure, a failli être détruit, et c'est grâce aux actions de l'association que maintenant le pont a été classé, et qu'on trouve cherche une nouvelle utilité dans l'espace public de Bordeaux.
Justement, cette année, la Dame de Fer a 135 ans. On a entendu ces dernières semaines des voix s'élever pour alerter sur son état de dégradation. Le temps a visiblement laissé des traces. Quels sont les principaux risques de dégradation d'un monument en fer comme la Tour Eiffel?
Alors, le principal, c'est la corrosion. Mais si on fait, on suit bien les règles, donc de faire tous les 7 ans une campagne de peinture, la tour peut rester en place pendant des centaines d'années. Elle est toujours là d'ailleurs aujourd'hui, donc il faut continuer à bien bichonner ce bijou.
Visiblement, on a laissé passer un peu de temps avant de lutter contre la corrosion et de repeindre la tour Eiffel ces dernières années. Quelles mesures mises en place pour conserver la tour? Est-ce que vous estimez, vous, Savoy Yatman Eiffel, qu'on en a fait assez ou au contraire qu'il y a des trous dans la raquette?
Alors, on n'en fait jamais assez. Je pense que comme les gens qui s'occupent de la tour sont très sérieux et aiment beaucoup, beaucoup la tour. Maintenant, il y a eu du retard sur la 20e campagne de peinture, effectivement, parce qu'il y a eu le Covid. Il y a les Jeux Olympiques aussi qui viennent un petit peu... on ne peut pas laisser la tour en plein travaux pendant les mois d'exposition. Donc, il y a un peu de retard qui a été accumulé. Et puis, cette 20e campagne, elle est un peu particulière. C'est qu'on a commencé pour la première fois à décaper une partie de la tour. Et on s'est rendu compte que dans les premières couches, il y avait du plomb. Donc, ça rend ce décapage beaucoup plus compliqué. Mais c'est une bonne chose qu'on ait commencé à faire ce décapage et c'est un travail sur le long terme. Il faut continuer à le faire petit à petit sans prendre de retard. Et donc, si on fait ça bien, la tour sera, voilà, pour rester belle et en place pendant encore de très très longues années, voire siècles, je l'espère.
Mais à l'occasion de cette polémique et puis d'une grève qui a quand même retenu les touristes au pied de la tour Eiffel, on a découvert que la tour Eiffel n'était pas classée monument historique. Elle est simplement inscrite à l'inventaire des monuments. C'est une nuance importante. Comment vous l'expliquez? Pourquoi la ministre de la Culture a demandé son classement, refusé par la ville de Paris? Pourquoi la question divise-t-elle ainsi, telle qu'on a pu l'entendre ces dernières semaines?
C'est une question un petit peu complexe. Il y a des tenants aboutissants à différents niveaux. Comme la tour est un monument vivant, visité par beaucoup de spectateurs, en fait, un classement pourrait... elle n'a pas été classée pour permettre en fait, que la tour puisse évoluer pour mieux répondre à la demande des visiteurs, vivre avec son temps en quelque sorte, qu'il y ait des nouveaux aménagements qui puissent être faits de temps en temps. Donc c'est une question qu'il faut se poser calmement. Mais en tout cas, la raison est claire. Parce que un classement complet en fait, figerait complètement la tour dans son état, qui peut être une bonne chose par certains côtés, mais qui empêche aussi une certaine évolution, qui peut être aussi plus problématique.
Gustave Eiffel est mort en 1923, on commémorait justement l'année dernière le centenaire de sa disparition. Quel avenir imaginait-il pour sa tour parmi toutes ses réalisations, quelle a été sa plus grande fierté, sa plus grande réussite parce que parfois on a l'impression, et moi j'ai un peu cette impression, que sa tour Eiffel cache la forêt de ses réalisations.
Absolument. Gustave Eiffel était très très fier de la tour. Je pense qu'il a bien compris que c'était un peu quand même son chef-d'œuvre et qu'on se rappellerait de lui grâce à cette tour. Tour qu'il n'a jamais appelé lui-même Gustave Eiffel. Lui, il en parle toujours de la tour de 300 mètres, hein, très humblement. Mais Gustave Eiffel, c'est beaucoup d'autres choses. C'est des centaines de réalisations à travers le monde et parfois monumentales. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure du viaduc de Garabit, mais donc il y a des ponts monumentaux à travers le monde entier. Et puis, il y a Gustave Eiffel scientifique, et ça, c'est ce qu'on oublie souvent, parce que la tour, donc, il a ouvert aux scientifiques, à d'autres scientifiques, mais lui-même a mené des recherches très importantes, et c'est un des pères de l'aérodynamique, et l'aéronautique sans lui n'aurait pas avancé, n'aurait pas connu le progrès qu'elle a connu, puisqu'il a fait des recherches en soufflerie, il a découvert beaucoup de lois fondamentales pour la réaction des ailes par rapport au vent et des hélices. Donc c'est vraiment un travail énorme, il y a vraiment deux vies chez Gustave Eiffel, il y a l'ingénieur entrepreneur et le scientifique, et on oublie cet énorme apport qu'Eiffel a fait en aérodynamique et en météorologie.
Absolument, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que sa tour a caché un certain nombre de choses. Moi, ayant fait mes études au lycée Carnot, j'étais aussi très fier que le hall de notre lycée ait été réalisé par les ateliers de Gustave Eiffel.
Absolument, mais j'ai fait ma prépa à Carnot, donc j'ai aussi pu profiter de ce beau
de la réalisation. C'était en famille en quelque sorte. L'an dernier, une demande de panthéonisation de Gustave Eiffel a été déposée par tous ses descendants dont vous faites partie. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous et où en est le projet, puisqu'on sait que ça dépend uniquement du président de la République?
La demande a été déposée, on fait des relances régulières, on s'arme pour s'inscrire sur le long terme, si ça ne se fait pas là, que ça se fasse plus tard. Je pense que vraiment Gustave Eiffel le mérite. Je pense que c'est un beau symbole de pugnacité, de créativité pour les nouvelles générations. Et à travers lui, ce n'est pas seulement Gustave Eiffel qu'on veut honorer, mais c'est aussi tous les ingénieurs, les entrepreneurs qui ont apporté tellement à la France et qui ne sont pas du tout représentés au Panthéon.
Pour terminer, parce que nous sommes le 1er avril, la Tour Eiffel a aussi joué des tours. Une année, pour un 1er avril, on a annoncé qu'elle allait être déplacée. Une autre année, que le troisième étage avait été ôté pour le rénover. Il s'agissait en réalité de la Tour Eiffel du Parc France Miniature. Mais une chose est vraie, une Américaine a épousé la Tour Eiffel en 2007, et ça, c'est pas un poisson d'avril. 17 ans après, on sait si la dame et la tour ont célébré leur noce de Rose. Vous avez des nouvelles de cette nouvelle membre de votre famille?
Alors, je n'ai pas eu de contact. Et si je me rappelle bien cette histoire, non seulement elle a épousé la Tour Eiffel, mais elle a changé de nom pour s'appeler Eiffel, comme la Tour Eiffel, quoi, je crois, en nom de famille. Enfin, c'est une histoire assez incroyable, effectivement.
Merci beaucoup, Xavier Yetman Eiffel, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la Tour Eiffel qui s'écrit encore aujourd'hui. Et on ne peut que souhaiter qu'elle soit préservée le plus longtemps possible, comme il se doit.
Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.